festival Lyon Sapo, avoir l'audace d'être une organisation noire, politique et autonome. Texte signé par le collectif Moissy, à la date du 4 juin 2017. La semaine dernière, on nous a traités de racistes, un nombre incalculable de fois. On nous a accusés de promouvoir la ségrégation raciale et la discrimination. On a comparé notre association au Ku Klux Klan. On nous a dit d'arrêter de fantasmer. On nous a dit d'arrêter de se prendre pour des Américaines. On nous a dit qu'on était coloristes et qu'on allait trier les gens sur leur degré de mélanine. On nous a dit que ce genre d'initiative comme la nôtre menait à des génocides, à la Shoah. On nous a conseillé d'aller vivre en Afrique du Sud. On nous a dit d'aller vivre là où il n'y a que des Noirs. On nous a dit de retourner en Afrique. On nous a dit qu'on menait une guerre contre les hommes blancs, contre les femmes blanches, à qui on faisait de la peine, contre les blancs blanches en couple, avec des Noirs, contre des blancs blanches qui avaient des enfants métis, contre des blancs blanches qui avaient des amis noirs. On nous a dit qu'on voulait détruire le pays, la République, l'humanisme, l'universalisme. On nous a dit qu'on était stupides, connes, inutiles. On nous a dit qu'on était des putes. On nous a dit qu'on était des salopes. On nous a dit qu'on était des connasses. On nous a dit d'aller nous faire enculer. On a perdu le compte. D'aller nous faire exciser. Ça a été dit 4 fois. D'aller nous faire sodomiser par divers animaux. On nous a dit qu'on allait nous péter la gueule. Ça a été dit 2 fois. Nous défoncer. Nous faire la peau. On nous a traités de guenons, 3 fois. De mules et de sous-merdes, 2 fois. Pour rappel, on organise des ateliers pour femmes noires et métisses sur le racisme, l'hétéropatriarcat et le capitalisme. Donc bon, avec cette information, on relit le premier paragraphe et on respire. Apparemment, en 2017, en France, l'idée que des afro-descendants descendantes s'organisent politiquement en autonomie est tellement insupportable qu'elle vaut une campagne de harcèlement sur Internet et des menaces d'annuler l'événement par les autorités. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. En 2017, en France, on peut faire des réunions féministes non mixtes entre femmes. On risque de subir quelques critiques d'hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne pourraient pas venir donner leur avis précieux sur la condition féminine, mais on peut bénéficier de subventions de la mairie de Paris, comme la Maison des Femmes, par exemple, où un homme ne peut pas entrer. On peut organiser des festivals féministes réservés aux femmes, comme Cinéfable, et être soutenu par la maire de Paris. Curieusement, dès qu'un certain critère vient s'ajouter, le critère racial, la non-mixité devient intolérable et fait réagir au plus haut niveau. Au plus haut niveau, vous savez, ces espaces de pouvoir où les personnes non blanches sont tellement peu nombreuses que lorsqu'on en a une, on s'assure bien de la mettre au premier rang sur la photo. On veut bien des femmes noires pour nettoyer discrètement les bureaux et pour garder les enfants pendant qu'on fait ses heures sup de cadre. Des femmes noires qui s'organisent politiquement, qui se réunissent et parlent ensemble pour définir des agendas et stratégies de lutte et résistance, ça plaît beaucoup moins. Nous n'avons pas non plus été surprises par les réactions de certains. Les trolls d'extrême droite qui s'excitent sur jeuxvideo.com planifient des attaques groupées en nous comparant au passage à 2 ou 3 animaux, on a malheureusement l'habitude. Que les chuchotements de ces trolls et de l'extrême droite trouvent oreille favorable auprès de la maire de Paris correspond à une certaine logique. Le racisme de gauche a cette particularité de vouloir garder le monopole de l'antiracisme dans le lexique de la morale. Comme la gauche sait le bien, en tant qu'humaniste, universaliste, c'est tout à fait normal pour elle de savoir mieux que nous ce qu'il faut faire ou ne pas faire contre le racisme. Et ce, contre toute logique, au regard de l'historique de la gauche en matière de colonialisme, de racisme et de récupération des luttes de l'immigration. Le 29 mai 2017, la maire de Paris s'empresse de tweeter qu'elle va non seulement faire annuler l'événement, mais qu'elle envisage de nous poursuivre pour discrimination. Dans le tweet d'Anne Hidalgo, nos ateliers réservés aux femmes noires et métisses afro-descendants se transforment en « interdits aux blancs ». Et comme le rappelait le frère Joao Gabriel, ouvrez les guillemets, Il ne s'agit ni plus ni moins pour moi d'une énième preuve que ce n'est pas la non-mixité en soi qui gêne ces gens-là, mais bien l'absence du blanc, censé incarner l'universel, selon leur vision eurocentrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le blanc n'a pas sa place, il s'agit là d'un attentat contre sa position de référent autour duquel tout doit tourner. Fermez les guillemets. Ce qui est bien avec cette polémique, c'est qu'elle nous permet de faire une enquête sur ce que veut dire discrimination pour la gauche gouvernementale et les organisations de l'antiracisme moral, comme la LICRA et SOS Racisme. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du travail. Apparemment, discriminer quelqu'un, c'est juste lui dire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Aucune trace du fait qu'il s'agit d'un rapport de pouvoir, d'assignation sociale, de domination politique, économique ou culturelle, dont le but est d'empêcher ces groupes d'accéder à des ressources, emploi, logement, études, etc., et à des espaces socialement valorisés ou de pouvoir, pouvoir politique, etc. Le petit problème dans leur plan « Faites-moi taire ces femmes noires que je ne saurais voir », c'est qu'on est déjà passé par là. Tout ce cirque a déjà eu lieu l'année dernière, à l'occasion de la première édition du camp d'été des coloniales. La mairie ne peut pas annuler notre événement puisque les ateliers non mixtes ont lieu dans des espaces privés. Tout ce qui se passe à la générale est ouvert à toutes et à tous. Quelle ne fut pas notre surprise devant le tweet d'Anne Hidalgo se félicitant d'être intervenue fermement auprès de nous. C'est bizarre, la fermeté n'était pas vraiment le ton de leur coup de fil pourtant. Suivi d'un tweet disant que les ateliers non mixtes se tiendront dans des lieux privés. La publication de ces deux tweets, à la suite, suggère qu'il s'agit du résultat de l'intervention. Sauf Madame Hidalgo, qu'Internet a une mémoire. Et les gens aussi. Nos communications sur le festival datent déjà d'il y a plusieurs semaines. Le site et le programme du festival sont plus anciens que vos tweets. N'importe quelle personne peut vérifier chronologiquement qu'aucun changement n'a été apporté au programme. On dit souvent que l'histoire est racontée par les gagnants. L'histoire est surtout racontée par les dominants, qui ont le pouvoir de faire dire à la réalité ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas à s'excuser dans la vie. Ils n'ont pas à se justifier sur leurs actions. Merci pour vos magnifiques hashtags suite à mon intervention ferme ou encore hashtag tweet comme Hidalgo qui nous ont bien fait rire pendant ces moments difficiles. La non-mixité est un outil militant déjà ancien. Depuis la semaine dernière, en réponse à des messages passablement agressifs, nous avons envoyé plusieurs dizaines de fois une BD pédagogique sur la non-mixité ou encore le texte de Christine Delphi. Les accusations d'être ségrégationnistes montre bien l'incompréhension des gens autour du fait que la non-mixité n'est pas un objectif, mais un outil, qui s'est construit sur des décennies d'expertise militante et de réflexion sur l'efficacité des différentes luttes. Toute personne qui a un jour voulu s'impliquer dans ces militantismes peut se rendre compte rapidement que ces espaces, qu'on croirait être enfin des espaces d'expression, des minoritaires concernés par ces oppressions, restent souvent des espaces définis et contrôlés par les majoritaires. C'est pour cette raison que des associations comme la LICRA, SOS Racisme et autres n'apprécient pas vraiment qu'on leur fasse des remarques sur la couleur étrangement très uniforme de leurs instances dirigeantes. La confiscation des luttes politiques aux concernés est un mouvement historique et systématique par le système dominant pour se protéger en sapant les mouvements de contestation à la racine. Dépolitiser le discours, imposer le point de vue blanc et majoritaire sur les questions, imposer le ressenti, les enjeux des hommes dans le féminisme, etc. La non-mixité est un outil militant déjà ancien. Depuis la semaine dernière, en réponse à des messages passablement agressifs, nous avons envoyé plusieurs dizaines de fois une BD pédagogique sur la non-mixité ou encore le texte de Christine Delphi. Les accusations d'être ségrégationnistes montrent bien l'incompréhension des gens autour du fait que la non-mixité n'est pas un objectif, mais un outil qui s'est construit sur des décennies d'expertise militante et de réflexion sur l'efficacité des différentes luttes. Toute personne qui a un jour voulu s'impliquer dans ces militantismes peut se rendre compte rapidement que ces espaces, qu'on croirait être enfin des espaces d'expression, des minoritaires concernés par ces oppressions, restent souvent des espaces définis et contrôlés par les majoritaires. C'est pour cette raison que des associations comme la LICRA, SOS Racisme et autres n'apprécient pas vraiment qu'on leur fasse des remarques sur la couleur étrangement très uniforme de leurs instances dirigeantes. La confiscation des luttes politiques aux concernés est un mouvement historique et systématique par le système dominant pour se protéger en sapant les mouvements de contestation à la racine. Dépolitiser le discours, imposer le point de vue blanc et majoritaire sur les questions, imposer le ressenti, les enjeux des hommes dans le féminisme, etc. Que fait-on dans nos espaces non mixtes ? Certaines personnes, en voulant sûrement aider, ont commencé à faire des comparaisons pas très flatteuses. Vous attaquez le festival, mais vous dites rien sur les bars identitaires à Lille. Est-ce qu'on a besoin de préciser qu'on apprécie très peu cette comparaison qui n'a pas lieu d'être ? On parle ici d'espaces occupés par l'extrême droite et les mouvements suprémacistes blancs. Espaces dans lesquels un ou une racisée serait littéralement en danger. Espace consacré au développement et au renforcement de théories racistes, sexistes et homophobes violentes. Les espaces non mixtes que nous mettons en place nous permettent de réfléchir à notre organisation comme corps politique sur des enjeux comme les violences policières, la culture du viol, l'homophobie et la transphobie, les discriminations concernant l'emploi, le logement ou l'éducation. Ce sont aussi des espaces de transmission, de savoir, et de production théorique sur l'histoire des combats afroféministes, luttes anticolonialistes, afro-caraïbéennes, le panafricanisme, l'anticapitalisme. Enfin, ces espaces sont aussi des lieux pour apprendre à prendre soin de nous, pour rester fiers et aimants aimantes de nos communautés, de nos corps, pour transmettre l'histoire des combats de nos communautés et afroféministes aux enfants et encourager leur estime d'eux-mêmes et de plein d'autres choses. Le plus drôle reste quand même que ces réactions scandalisées à la non-mixité de certains ateliers du festival sont en fait venues justifier aux yeux de tous la nécessité de la non-mixité. On imagine avec plaisir un atelier interrompu par A qui pense que le racisme n'existe que si on y croit, par B qui déclare qu'on est raciste parce qu'on ose faire la différence entre les noirs et les blancs, par C qui veut partager sa très bonne connaissance de l'Afrique et des Africains, parce qu'il a vécu 2 ans au Mali. D qui est persuadé que si on travaille dur, le racisme ne compte pas. E qui ne voit pas la différence entre les gens de toute façon. F qui a beaucoup lu sur l'histoire de l'esclavage et pourrait nous apprendre des choses. On pourrait continuer pendant des jours et des jours. Tous ces exemples correspondent à des commentaires, des tweets et messages réels reçus par Moissy depuis le début de la polémique. Vraiment, en voyant tout ça, on se demande pourquoi il existe des espaces non mixtes, dis donc. C'est un peu la même chose quand on voit les tweets de désinformation émanant pourtant des institutions. Les très nombreux reportages et articles de presse qui reprennent, sans se poser la question de l'exactitude de la source et des faits, l'expression « choc, festival interdit aux Blancs ». La couverture médiatique du militantisme est de manière générale déplorable et réductrice. Heureusement, nous avons vu apparaître de nombreux articles de qualité de la presse étrangère qui venaient comme bien souvent demander « What the fuck, France ?» Comme pour le burkini, comme pour le port de signes religieux à l'école, comme pour la majorité des débats franco-français sur tout ce qui peut toucher à la diversité de la population, nous avons apprécié de voir s'exprimer une réelle incompréhension vis-à-vis des névroses françaises qui mènent à des situations injustes et absurdes. Nous estimons que nous n'avons pas à faire nos actions non mixtes en nous cachant, en catimini. Savoir que les oppressions que nous subissons sont des expériences collectives et que nous avons donc besoin de nous organiser collectivement contre ce système. On envoie donc tout notre amour et notre soutien aux personnes noires et métisses afro-descendantes qui ont eu à subir indirectement les répercussions de cette offensive raciste. Les personnes qui ont été exposées comme nous à des commentaires, des tweets, des messages violents, à la fois racistes, sexistes et homophobes. On remercie toutes celles et ceux qui nous ont montré leur soutien, avec leur hashtag « Je soutiens Moissy », avec des messages, avec des dons, à commencer par les anciennes membres du collectif, notamment sa fondatrice Sharon. On remercie les afroféministes actives sur Twitter, vous êtes au-dessus. Le Black Atlantic Twitter, qui s'est mobilisé des États-Unis, en Grande-Bretagne, en passant par le Kenya et Haïti. Les collectifs militants, les associations, les personnalités qui nous ont soutenus indéfectiblement, depuis la générale à Black Lives Matter, en passant par Maboula Soumaoro, Rokhaya Diallo, Françoise Vergès, Amandine Gay, Gerti Dambouri, Léonora Miano, Alexis Peskine, Hamzat Boukhari, Zahra Ali, Siam Asbag, Cinéfable, Alice Coffin. Polémique après polémique, intimidation après intimidation, les patriotes, les républicains et boutiquiers de l'antiracisme moral ne semblent pas comprendre que leur front commun ne fait que renforcer notre détermination à nous organiser en autonomie. Nous savons que le chemin sera long, qu'il y aura d'autres batailles, mais nous ne les mènerons pas seuls. Signé, le collectif Moissy.
Celles et ceux qui ont essayé de détraquer et d'empêcher que ce festival il ait lieu.
Bah on est plus fort qu'eux, hein. Quoi qu'il se passe, hein, parce qu'on a encore un cerveau hein, et on aura toujours un cerveau. Donc ça, il ne faudrait pas qu'ils oublient ça. Quoi.
Oui, moi je veux bien.
C'est pas la première fois que je viens dans ce genre d'événement. Enfin, j'ai l'habitude de venir avec ma mère. Je trouve que c'est important de venir à ce genre d'événement où on est regroupés tout ensemble sans les autres, entre guillemets.
C'est qui les autres ?
Bah, les blancs, etc. J'ai appris un peu plus ce que c'était. Enfin, tout ce qui était féminisme, afroféminisme, etc. Sur l'islamophobie.
Merci.
Donc des stratégies que j'ai mis en place à la fin de l'atelier, qui étaient du coup dans un premier temps, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, à savoir qui on est, apprendre à s'apprécier, apprendre à se regarder et se dire bah en fait c'est ce que je suis, je ne serai pas celle qu'on veut que je sois, je ne serai pas celle qu'on nous a imposée en termes de critères de beauté, en contexte occidental toujours. Deuxième point en termes de stratégie, sensibiliser son entourage, en parler autour de soi, notamment à ses frères, à ses fils, à ses cousins, à ses pères, je ne sais pas, en tout cas les hommes de son entourage, aussi les femmes, hein, c'est important aussi, parce que les femmes ont tendance aussi à transmettre des choses qui ne sont pas très avantageuses, enfin en tout cas pour la communauté, pour le plus tard. Donc sensibiliser son entourage, donc ses amis. Troisième point, sa fréquentation. Bien s'entourer, faire attention aux gens qu'on fréquente en fait. Si les personnes qu'on fréquente ne sont pas là pour nous valoriser ou sont là pour nous faire du mal, bah là on change de trottoir et on passe à autre chose quoi. Vraiment s'entourer et faire attention surtout aux remarques de son entourage toujours. Si c'est un entourage proche, bah, relever des petites remarques relatives au colorisme. Il y a une jeune génération qui est derrière. Il faudra l'éduquer, faudra lui expliquer ce que c'est que le colorisme, faudra faire en sorte de la valoriser, cette nouvelle génération. Et dire c'est dangereux, non en fait, on nous a appris en tant qu'enfant noir, en tant que fille noire, qu'on ne correspondait pas aux critères de beauté dominants. On le voit à l'école, on subit des remarques. Il est important que nous, en tant que référence principale de ces enfants, je ne sais pas, des fois on est les tantes, qu'on soit les mères, qu'on soit, je ne sais pas, une amie à la famille, de valoriser ces enfants-là, de leur dire qu'elles valent quelque chose, notamment les filles, et de les mettre devant un miroir, voilà, et de leur dire, bah, en fait, c'est ce que t'es, et il faut que tu apprennes à être ça, en fait. Donc voilà, en termes de stratégie, et bah, j'espère qu'avec le temps, on pourra en développer d'autres, quoi.
Jesui Yunus, this is my third day for the conference. I'm from Chicago. I heard about the conference there in Chicago. I was coming to France anyway, and then when I, you know, naturally here, I'm like, oh, I gotta go. And so I didn't expect for it to be translators or anything like that to understand everything. So I'm really happy I came, actually made my trip in France worth coming for. I'm here for 2 months, so it like totally made my whole trip. I attended the colorism conference, the Making Transnational Alliances, and did the colorism today. Overall, as far as what I didn't grasp until I got here was like the fact that you can't really discuss race, and supposedly it doesn't exist. But the visually you can see that stuff is off. Like, you know, I mean, the neighborhoods, the segregation in the neighborhoods, and this and that. So I'm happy to be here, and I'm looking forward to see how it progresses with the conversation as far as opening up the dialogue to really talk about the institutional racism that's clearly here. They don't, even if they don't want to call it racism, it's something.
On rencontre, on échange, on se donne de la force, on prend position, on protège, voilà, on fait tout ça.
Toi, pourquoi t'as eu envie de venir?
J'ai eu envie de venir parce que j'ai assisté à plusieurs, dans des contextes différents, à plusieurs événements qui parlent d'antiracisme politique et organisés dans des contextes de non-mixité, et que ça m'a vraiment aidé à me former, donné de la force, permis de résister dans tous les espaces de mixité non choisis, qui forme mon quotidien. Ça permet de faire du réseau aussi et de se former ensemble, quoi, de discuter ensemble, de se former.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui hésitent, qui ne savent pas trop, qui débutent dans l'afroféminisme ?
Alors j'ai envie de dire que j'aimerais bien pouvoir dire que ça va être facile. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas forcément parce que même quand on... Bon là c'est pas une non-mixité, moi je suis une femme noire, c'est pas une non-mixité femme noire par exemple, mais même dans certaines non-mixités femmes noires en fait... c'est pas toujours facile. Parfois, si on est tout seul, en fait, c'est pas évident parce que il y a des gens qui se connaissent déjà, qui interagissent, qui ont des codes. Mais ça vaut vraiment le coup, quand même, parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais tous ces problèmes-là dans plein d'autres contextes, et que j'ai fait l'effort quand même, et que ça a fini par payer. Et que là, ce contexte-là, c'est vraiment le contexte dans lequel. Il faut faire un effort et en plus il y a de grandes chances que ça se passe bien directement aussi. C'est possible. Donc il faut venir, pas hésiter à poser des questions. Et il y a vraiment plein de belles personnes à rencontrer du coup. Voilà. Moi j'habite à Grenoble.
Je m'appelle Claudia Simone et je fais partie du collectif Madalena Anastasia, qui est un groupe de femmes noires au Brésil. Je suis afro-brésilienne. Je viens d'Amiens, j'habite à Amiens à peu près 5 ans. Ah, je viens à Sapo parce que je me sens complètement seule à Amiens, parce que j'ai cherché un groupe de femmes afro-féministes pour continuer à militer ici en France. Comme je fais ça au Brésil, j'ai cherché à Amiens et comme je n'ai pas trouvé, j'ai dit bon, je veux à Paris, à Nansapo, pour retrouver des gens, des partenaires pour continuer la militance.
Qu'est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Comment ça se passe? Est-ce que tu as participé à des ateliers?
Ah, c'était pour moi, c'était énorme, tous les échanges. Déjà, retrouver beaucoup de femmes noires, racisées, partout, ça, c'est un rencontre magnifique, déjà. La force politique qu'il y a, chaque atelier et chaque partage. J'ai participé d'un atelier, c'est racisme, sexisme contre les femmes noires. Et toutes les choses qu'on apprend avec l'une et l'autre, c'est impressionnant. Comment ont besoin de ces espaces de partage.
Et tu peux me raconter un peu, toi, le collectif dont tu fais partie au Brésil, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites?
Dans cette collective, on bosse par rapport à la méthodologie qui s'appelle le théâtre de l'opprimé. Et c'est le théâtre fait pour femmes en ce moment. Et le collectif, il vient de moi nécessité parce qu'on cherchait des espaces pour femmes noires pour parler de notre condition d'afro-descendants. Et on ne trouvait pas. Et comme ça, on dit, on va faire un collectif nous-mêmes pour partager et pour lutter contre le racisme et le génocide au Brésil qui aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est immense, c'est énorme et c'est pour ça que le collectif est active.
Tu sais, il y a eu pas mal de polémiques autour de l'organisation de ce festival. Tu en as entendu parler, la mairie de Paris, voilà, certains qui sont... Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, toi, qui disent que ça exclut les personnes blanches, etc., etc.
Déjà, je crois que ça, c'est, on voit toujours, ça, c'est un réflexe de racisme. Ça, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. On comprend bien que le blanche, il s'autorise à avoir des espaces non mixtes. C'est déjà fait dans la société, mais c'est non dit. Ici, on assume une position que c'est aussi politique. Et je crois que la façon de répondre, c'est super. J'ai une dame qui parlait au premier jour, elle parlait du code noir. Et c'est de là que vient toute la discrimination qui se perpétue aujourd'hui. Donc c'est très important et c'est important aussi d'avoir la force politique de répondre les choses. Il y a des moments où on n'a pas l'information et comme ça on est fragile. Comment ici il y a un collectif de femmes qui s'y bat toujours pour les questions comme ça-là, on se renforce. Donc je crois que la position c'était importante, l'alliance c'était beaucoup importante et d'y venir aussi.
Tu as envie d'ajouter quelque chose?
J'ai envie d'ajouter un grand merci à toute l'organisation, à toutes les femmes qui sont ici. Je me sens plus forte. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout seule parce que je viens là du Brésil pour être ici en France et j'apprends beaucoup de choses et c'est ça la sororité. Merci, un grand merci.
Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être là aujourd'hui, ce week-end?
Ça permet de rencontrer des sœurs. parce qu'il y a ça où je me sentais pas tant entourée que ça en soi. Donc voilà, donc ça déjà, ça fait plaisir de rencontrer des gens qui partagent la même chose que moi, même si c'est pas de la même manière, mais au moins ça. Et sentir qu'il y a vraiment du militantisme, et ça, c'est cool, quoi.
Donc moi, je m'appelle Founé Tounkara. J'ai 27 ans et je vais actuellement à Paris, à Épinay-sur-Seine pour être exact. Donc voilà, à peu près au chômage pour l'instant, en train de reprendre des études, en voie de devenir professeur des écoles. Aujourd'hui, je me définis comme féministe décoloniale en tout cas, et militante concernant les violences policières, en ce qui concerne les violences envers les immigrés. Et aussi, du coup, tout ce qui concerne les questions autour de la femme noire dans un contexte, en tout cas, occidental.
Pourquoi tu as voulu venir à Niansapo ?
Niansapo, donc à la base, c'est parce que j'avais des connaissances, donc des femmes noires qui organisaient le festival que je connaissais, mais surtout parce que j'ai eu l'opportunité, en fait, de faire l'atelier donc sur le colorisme, autour du colorisme. Et que quand on m'a proposé, moi j'ai dit pour une fois qu'en France, enfin pas pour une fois, mais là de façon exceptionnelle, on a l'opportunité de s'exprimer, nous en tant que femmes noires, dans un lieu public, entre nous de façon safe et en toute liberté, je le mets entre guillemets parce qu'il y a encore du boulot à faire autour de ça. Je me suis dit, on y va.
Est-ce qu'il s'est débranché du PC ?
Bonjour, alors moi je suis Elsa Rakoto et je fais partie du collectif Soce, qui est un collectif afroféministe lyonnais, décolonial et intersectionnel.
Voilà, bonjour, alors moi c'est Jo. Donc j'appartiens au même collectif Soce qui est à Lyon. Et donc pour le présenter brièvement, donc c'est un collectif qui est né, alors je ne sais pas si on peut dire en février, c'était la première réunion, mais du coup on n'avait pas encore le nom Soce. Donc en tout cas les premières réunions ont lieu en février. Et donc on existe jusqu'à maintenant, il y a 13 membres et notre but, après Elsa pourra peut-être rajouter, c'est d'agir sur le quotidien de la femme noire pour améliorer son quotidien et de dénoncer toutes sortes d'oppressions féministes, le validisme, le classisme, le sexisme. On est dans une intersectionnalité justement des oppressions et on essaye de prendre tout en compte.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme non-mixité du coup ?
Alors Soce, donc c'est un collectif qui est en non-mixité de genre et de race, c'est-à-dire que on est un collectif qui est ouvert aux femmes afrodescendantes qui subissent la négrophobie et qui subissent également toutes les autres oppressions qui découlent aussi de la race et de la classe, du validisme, de l'homophobie, de la transphobie. Donc on est vraiment en non-mixité de race et de genre. Donc c'est comme ça qu'on définit notre non-mixité en tout cas. On considère que la non-mixité c'est un outil de lutte, qui nous permet en fait de nous extirper de l'oppression du blanc triarcat, c'est-à-dire du paternalisme et de l'oppression blanche, de la blanchité. C'est notre non-mixité, on la revendique. Ça nous permet aussi de développer des espaces qui soient safe, secure, où on peut s'exprimer en tant que femme noire sans avoir ni à se justifier, ni à être confrontée à la négation de nos oppressions, et ni à être confrontée à des personnes qui nous confisquent la parole.
Et pourquoi vous êtes venue à Niansapo ce week-end ?
Alors, on a été invité par le collectif Moissy. Déjà, on les remercie pour cette invitation. On les remercie parce qu'on a été très bien reçus et on félicite l'organisation. Et donc, notre but, c'était aussi de présenter un collectif afroféministe qui est basé sur Lyon et de montrer qu'il y a aussi des choses qui se passent en dehors de Paris, que tout n'est pas centré sur Paris. Et aussi, essayer aussi d'impulser la création d'autres groupes afroféministes sur Lyon et sur toutes les autres villes, parce que moi, je pense que plus il y aura de diversité de groupes afroféministes et plus, justement, notre parole pourra être entendue. Et donc, pour revenir un petit peu plus sur la question, on est aussi venu présenter tout ce que l'on produit aussi dans le collectif, nos brochures, nos badges, etc. Et discuter avec les gens, les rencontrer. Et comme ça, ça nous permet aussi de mieux saisir ce que les femmes noires, les femmes afrodescendantes plus précisément, veulent, ce qu'elles veulent, et d'être plus près de leurs préoccupations.
Oui, donc on a été invité également à participer à la table ronde de clôture du Festival Nyan Sapo qui aura lieu ce soir, dimanche soir, et qui a pour thème les perspectives et agenda afroféministe. Il s'agit aussi de savoir quand est-ce qu'aura lieu et où surtout aura lieu la prochaine édition du Festival Nyan Sapo, qui est un festival afroféministe européen. Donc il doit être accueilli l'an prochain dans une autre ville. On va voir si on pourra déterminer ça lors de cette table ronde. Il faut aussi également déterminer quels sont les objectifs révolutionnaires du mouvement afroféministe. Il y aura plusieurs collectifs qui seront présents, comme le collectif Mwananke, qui est le collectif afroféministe belge. Il y aura aussi Black Lives Matter UK. Il y aura également d'autres collectifs. Et nous serons plusieurs autour de cette table ronde pour déterminer les perspectives afroféministes.
Ils nous guettent,
ils nous mentent,
ils nous tourmentent,
ils nous tuent,
ils nous mentent, ils nous abattent, ils nous insultent, ils nous mentent, ils nous tourmentent,
ils veulent nos têtes,
ils nous tuent. Dans la rue,
ils nous abattent,
ils nous mentent. Ils veulent nos têtes. Ils veulent nos têtes.
Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, parce qu'on me rejette. Mais sur ma route, enquête puis écoute. Et qu'on y ajoute des coups de tête et puis des coups de latte. Donc mate tous ces coups de pute en fait que l'on goûte. Et nos défaites ici sont à la fête. Parfaites en somme pour inspirer la crainte. Donc rien n'arrête les batailles que je décrète. Même si les flammes des émeutes sont éteintes. Moi, ce prototype que l'on tape. L'archétype de la sale gueule dont on flippe. Et qui ne franchit jamais aucune étape. Sans qu'on me palpe du scalp jusqu'aux saisons de mon équipe et mon handicap. Mes principes, mes mauvais tripes et puis mon rap. Donc ce que je récite, je suis pas sûr que tu le sais. Ma teinte qui les éreinte et puis oriente. Leurs assauts et nos décès dans leur descente. Et s'ils s'excitent, nos têtes sautent. S'ils s'emportent, justice clémente. Et de suite ils s'en sortent. Nos vies défuntes ou en miettes. Ils s'en foutent, c'est sur nos appartements qu'ils empiètent. Nous mettent dans la lunette des chiottes. Tirent la chasse qui alors emmène leur chiasse et la flotte. Donc j'en prends note et n'ai aucune attente. La fuite ou la faim te laisse trop dans la fiente. Ils guettent, battent, ligotent, mènent à la baguette et mijotent. Qui n'est pas leur pote, te souhaite la chute ou le shoot. Une existence méchante et puis faite de doute. Peu alléchante donc frère écoute. J'ai choisi de combattre pute et traite et leur porte de les abattre toutes. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.
I don't know. This is my first time in France, and just I've been I'll be here 2 months, so this is going to my second month, and like clearly there's an issue. I mean, I see it, and it just didn't click for me that you can't call it racism. So I'm still trying to wrap my.
You said that clearly you can feel that we have racism here. But do you have examples?
Yeah, I'm staying in Belleville area, and I understand that area was like immigrants and so now it's gentrifying, and I stayed, the first 10 days I was here, I stayed toward the Moulin Rouge. I understand that area gentrified. So we have the same issues in Chicago. I think eventually they want to do the same thing to us, push the poor and black people out to the suburbs, and they take back the city. So that's actually why I'm here, to understand that and understand the roots to colonialism and imperialism, and yeah, because it's a colonial power. I mean, you start with race, with slavery, and you know, trying to understand the fact. And then another thing I can't wrap my head around is the point that how they cannot address the history of slavery, and that they wanted their independence in France but not Haiti, and this is the same power, but they didn't try to pretend like race doesn't exist. I mean, like, you still benefited from the wealth created from you colonizing people. So we're never catch up with the wealth that you already built. And then you still further, you know, pushing us back and back and back and back, and still building wealth, and we have nothing. So that was the, you know, point of me being here, to understand that, from instead of reading about it in the history books, just to come here and walk around, and luckily I got to talk to people to really understand the issues.
Je m'appelle Amina et j'ai 16 ans. J'habite à Atis-Mons, à côté d'Orly. C'est ma mère qui m'a amenée avec mes deux sœurs.
Donc en fait, le colorisme, qu'est-ce que ça va être ? Donc ça va être la pratique d'une hiérarchisation, d'une classification en fait, d'un groupe ethnique donné. Et en l'occurrence ici, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai parlé de la communauté noire, mais ça peut se faire dans n'importe quelle communauté qui a été, en l'occurrence, colonisée. Et en fonction en fait, de la couleur de peau, de nos nuances, pour faire un dégradé un peu, je vais faire le parallèle avec, par exemple, une courbe d'avantages et de préjugés. On va le mettre en parallèle avec les nuances de ton qui existent dans la communauté noire. Donc ça va être les plus clairs seront associés à des personnes plus intelligentes, plus douces, en tout cas mieux vues dans la société occidentale, que des personnes plus foncées qui vont donc être victimes de discrimination, de préjugés, qui vont avoir moins de privilèges, moins d'accès à certaines choses, alors que des personnes claires l'auront juste parce qu'on pense qu'ils sont comme ci ou qu'ils sont comme ça. Donc voilà, par rapport au colorisme, on peut aussi l'associer du coup aux albinos. Ça concerne dans notre communauté un peu plus les femmes noires que les hommes noirs.
Donc j'ai participé à un atelier qui est l'atelier colorisme. Donc pareil, c'était un mot dont j'ignorais la définition. Et honnêtement, là, ça m'a permis de mettre une définition sur un mot, et surtout d'écouter des témoignages où je me sentais vraiment concernée, où j'avais l'impression d'avoir le même vécu. Donc c'était vraiment très intéressant.
Ça concerne l'afroféminisme, et en fait, ce que l'afroféminisme m'a fait, en fait, elle m'a fait quelque chose de libérateur, en fait. Aujourd'hui, tu peux être ce que je suis, une femme noire en France, sans adopter en fait d'autres comportements. Je peux être moi, je peux être founée, je peux être noire, je peux être exubérante, je peux être, je peux partager des choses avec des gens autour de moi qui me concernent. Et voilà, en fait, c'est pour ça que je suis là en fait, pour ça, pour partager, pour découvrir et surtout communier avec d'autres femmes noires qui vivent les mêmes choses dans un contexte en tout cas occidental, en France. Voilà.
Alors oui, moi j'ai participé à deux ateliers, donc comprendre le sexisme et le racisme subi par la femme noire. Alors c'est pas exactement comme ça l'intitulé, mais voilà, je dis brièvement. Et puis un deuxième atelier avec Ndéla Paye sur la question de l'islamophobie et des femmes noires.
Donc je suis Ndéla Paye, militante antiraciste et afroféministe.
Tu as proposé un atelier à Nyansapo. Est-ce que tu peux dire ce que c'était, comment ça s'est déroulé?
Alors l'atelier, c'était l'afroféminisme et la lutte contre l'islamophobie. Donc là, il s'agissait clairement... on n'était que des femmes noires musulmanes, hein, à part une qui était prof et qui avait envie d'en savoir plus par rapport à l'islamophobie pour justement être le mieux possible ouverte avec ses élèves. C'était super bien parce qu'en fait je me suis retrouvée avec des femmes musulmanes qui n'étaient pas du tout militantes, donc on est reparti sur les bases, hein, sur des terminologies comme le racisme d'État, ce que c'était que d'être en fait une femme noire musulmane dans un contexte où c'est plutôt les Arabes qui sont perçus comme ayant la légitimité d'être musulmane. Donc voilà, on a débattu autour de ça, ce que c'était pour ces femmes-là d'être musulmanes, ce qu'elles avaient rencontré comme difficulté en fait à être musulmanes, c'est-à-dire quand on est noir, dès lors où on pratique différemment de la façon de pratiquer des Arabes, on est remis en question en pensant que en fait c'est notre culture qu'on met. Enfin, on mélange en fait l'islam avec la culture, comme si en fait les Arabes ne mélangeaient pas leur culture à la religion. Et donc voilà, ces difficultés-là, on en a parlé et c'était très très riche et intéressant.
Tu peux me dire pour toi en quoi c'est important d'être ici à Nyansapo?
Alors Nyansapo, c'est important d'être ici parce que c'est un des rares espaces qu'on a justement qui est organisé en fait par et pour nous. Quand on arrive, on s'y sent bien tout de suite et surtout à sa place, quoi. On se sent pas étranger. Et vraiment pour moi c'était nécessaire. Et par contre c'est dommage parce qu'il y a plein d'ateliers en fait qu'on a envie de faire et comme ça a lieu au même moment, on peut pas s'inscrire partout. Mais vraiment j'espère que tous les ans on pourra avoir ce genre d'espace en fait d'expression pour les femmes noires.
Alors, je m'appelle Aseitou, j'ai 29 ans et du coup, je suis au festival Nyansapo pour la première fois de ma vie.
T'habites où ?
J'habite à Paris.
Alors, moi, j'ai pu assister et participer à l'atelier qui a été donné par un membre du collectif Case Rebelle, une membre du collectif Case Rebelle, et il s'agissait d'un atelier sur les alliances possibles entre les femmes cisgenres et les femmes trans, parce que la transphobie, c'est un sujet qui est aussi... une oppression à mettre conjointement dans nos objectifs en tant qu'afroféministes, parce que les luttes, elles doivent être toutes au même niveau. Et il s'agit aussi de discuter des espaces où les personnes transgenres puissent être accueillies en toute sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas accès à certains espaces? Qu'est-ce qui fait qu'elles ne se sentent pas en sécurité? Comment les alliances entre les femmes cisgenres noires et les femmes trans peuvent être faites dans un contexte où on est vraiment entouré de transphobie? Qui est très violente et qui est très difficile à vivre pour les personnes trans.
Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ?
Oui, moi je tiens à parler du festival Nyansapo qui est vraiment quelque chose de très très important. Il a permis ce festival à beaucoup d'afrofemmes et à beaucoup de femmes noires de se rencontrer, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger leurs différents points de vue. Ça permet de voir qu'on n'est pas toutes seules, il y a beaucoup de monde qui pense comme nous et que que, comme elles le disent, qu'il ne nous reste plus qu'à nous organiser pour être puissamment présentes dans l'espace français et au-delà.
Oui, merci beaucoup au Festival Nyansapo et au collectif Moissy qui a abattu un énorme travail pour organiser ce festival, malgré toutes les oppressions à laquelle elles ont fait face dans cette organisation. On les soutient jusqu'au bout et bravo, un grand bravo à elles.
Vous, vous êtes un collectif ouvert ou pas? C'est si jamais il y a des Lyonnaises qui veulent vous rejoindre, est-ce que c'est possible?
Alors oui, on a un collectif donc ouvert aux afro-descendantes et à toute femme qui se reconnaît comme étant une femme afro-descendante. On a des réunions ouvertes où on accueille justement de nouvelles filles. Et donc on a notre page Facebook, Sochi, S-A-W-T-C-H-E. On a un Twitter, il suffit de taper Sochi aussi. Et on a aussi, on a aussi un mail, Sochi, je peux donner le mail, hein, sochi@gmx.fr, où on peut nous contacter et donc nous poser toutes sortes de questions auxquelles on répondra toujours. Voilà.
Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Bah écoute, moi j'ai trouvé ça génial. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Le Kazé, c'était juste phénoménal parce que je sais pas quoi dire d'autre, mais je me suis remise là dans ces discussions féministes. Il y a une pêche et une énergie qui est incroyable. Et pour moi, c'est l'avenir. L'avenir de la lutte féministe et antiraciste, elle est là en fait. Vraiment là je pense que ça se joue là, vraiment.
J'aime bien ce festival parce que je pense que c'est bien de parler de ça. Des femmes qui sont noires parce que souvent dans les pays on pense qu'elles n'existent pas. De rien. Bonne soirée.
Non, je sais pas quoi dire, à part respect et admiration pour toutes les meufs de Moissy, parce que c'est un travail énorme, c'est un travail dont on a besoin, et c'est juste magnifique que ça existe, un festival comme ça, et avec toutes les pressions qu'il y a eu, encore plus de respect, quoi, et continuer comme ça.
Exceptionnel, un véritable événement, un très bel événement. Ça fait du bien, on a pu se voir, on a pu apprendre, on a pu se connaître, on a communié, on a pu découvrir, ça fait du bien. Il reste à appliquer tout ce qu'on a appris, il reste à appliquer, il reste à entretenir, reste à continuer sur cette voie, quoi. Mais force à moi-ci et encore plus de Nian Sapo.
Non, mais c'est vrai que ça donne beaucoup de force et beaucoup d'espoir et beaucoup d'idées. C'est même un peu difficile des fois parce que ça fait la profusion d'émotions et dans la tête. Et c'est vrai que ce qui va être plus difficile, c'est qu'après on retourne dans nos réalités qui ne sont pas des réalités de cette... En fait, il n'y a pas forcément cette énergie-là dans nos vies au quotidien. On n'a pas forcément toutes ces personnes vers qui se tourner dans nos vies au quotidien. Et c'est surtout après ça, comment... garder cette énergie-là et la transformer dans quelque chose de constructif. Et voilà, c'est surtout, en tout cas moi personnellement, j'essaie d'apprendre à faire ça. Et puis voilà, garder les liens, parce que c'est bien, on sourit, on se donne des numéros, etc. Mais il faut tisser des liens, construire des choses, des ponts. Voilà, donc en fait, c'est un début. C'est un début, mais c'est un très très beau début.
Bah écoute, ça a été 3 jours super riches, super intéressants. Avec de la redite, de la découverte et surtout beaucoup d'amour flamboyant
et de mélanine et de
tout ce qu'il faut pour partir dans une vie qui est pas toujours très très simple quand on est une femme noire ou assignée femme noire voilà, dans une société blanche, suprématie, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, donc merci moi-ci et merci aux sœurs pour ces 3 jours.
Alors, parce que je voulais dire, c'est que vraiment c'était une super super expérience. Un bain de mélanine, comme je disais tout à l'heure, être soi, être bien, être entre nous et entendre des choses dures, mais des choses qui font du bien. Et voilà, enfin, vraiment, big up à moi aussi, c'était génial, génial, génial.
J'adore. I am. Mais en fait, non. Oui, j'adore Ariane. Okay.
Juste que c'était vraiment génial, que c'était trop court parce qu'on a vraiment kiffé et qu'on espère que ça se refera très vite et qu'on aidera pour que ça se refasse très vite parce que c'était vraiment génial, quoi. Et respect à elle d'avoir réussi à mettre tout ça en place. Franchement, j'ai rien à dire, vraiment. C'est vraiment cool.
Que dire, je suis très 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 émue d'arriver au 3e jour de Nian Sapo, de voir autant de mélanine, mais pas seulement, autant de flamboyance, mais pas seulement. Il y a eu des vraies discussions, il y a eu des vrais échanges, il y a eu de l'écoute, il y a eu de la compréhension, il y a une vraie communication qui s'est faite à l'intérieur des communautés racisées, entre femmes noires, hommes noirs, personnes noires, entre personnes racisées, les discussions autour du colorisme, autour de l'amour politique. C'est tout un bagage qui, j'espère, va nous accompagner dans nos quotidiens, même en dehors des cadres militants, mais dans nos quotidiens, entre nous déjà, entre nous en commençant par nos familles peut-être, par nos proches. Parlons-en. Parlons de l'afroféminisme, parlons de nous en fait, parlons de comment on se sent en fait. Arrêtons d'opprimer nos sentiments, de les minimiser. Parlons-en parce que c'est ça aussi qui maintient notre santé mentale, c'est le fait d'en parler, d'échanger, de comprendre qu'on n'est pas seul. Donc à la fin de cette 3e journée, je suis fière, je me sens digne, je me sens importante, je suis très fière d'être noire.